Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez courant en apparence, la clôture électrique. Mais on va voir qu'il y a pas mal de détails techniques importants.
Absolument. On va s'appuyer sur la notice d'un appareil bien précis, l'énergie pic, fil pic secteur.
C'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche vraiment, ce qui fait qu'une clôture est efficace ou pas, et surtout comment l'utiliser en toute sécurité. On va décortiquer ce que dit le fabricant.
Exactement. On va parler puissance, on va parler d'un élément crucial mais souvent un peu négligé, la prise de terre. Et il y a des petites astuces, des avertissements même, tirés direct du manuel. C'est plus technique qu'on ne le pense souvent.
Parfait. Alors, commençons par le début, le matériel. La notice est assez directive sur le type de fil à utiliser, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et c'est intéressant, elle recommande très très fortement le fil de fer galvanisé. Numéro 10 ou 12, c'est assez épais.
Galvaniser, donc traiter contre la rouille, pour bien conduire.
C'est ça. L'idée, c'est d'avoir la meilleure conduction possible sur toute la longueur, pour que l'énergie, elle aille là où il faut, sans se perdre en chemin.
D'accord. Et à l'inverse, il y a des fils qu'il vaut mieux éviter.
Ah oui, et la notice est assez directe là-dessus. Elle met en garde contre ce qu'on appelle les fils, cordes ou rubans électroplastiques.
Ce qu'on voit souvent pourtant.
Oui, mais selon ce fabricant, ils peuvent entraîner des pertes d'énergie énormes. La notice dit même, c'est assez imagé, qu'ils gaspillent l'énergie des impulsions en chauffant les oiseaux.
En chauffant les oiseaux, carrément.
Bah oui, en clair, ça veut dire que leur résistance est trop forte. L'énergie se dissipe en chaleur au lieu de voyager. Jusqu'à 1% de perte par mètre, c'est considérable sur une longue distance. C'est un peu comme une fuite constante.
Ah oui, 1% par mètre, ça chiffre vite. La notice parle aussi d'adapter la hauteur des fils selon les animaux.
Oui, c'est logique. Faut adapter la barrière à la taille, au comportement. Pour les gros animaux, bovins, chevaux, un seul fil, à 80 cm du sol, ça peut suffire.
Simple.
Voilà. Mais si on a des vaches avec des veaux, qui sont plus petits, là, ils recommandent deux fils, un à 40 cm et un autre à 80 cm. Double sécurité.
Et pour des animaux plus petits ou peut-être plus agiles, moutons, chèvres?
Pareil, deux fils, mais placés différemment. Un assez bas, genre 30 cm, et le deuxième vers 60-70 cm. L'important, c'est qu'ils entrent bien en contact avec un des fils.
Logique. Bon, et l'appareil lui-même, cette énergie pic, où est-ce qu'on l'installe? Il y a des règles?
Oui, quelques précautions importantes. D'abord, un endroit sec et aéré, pour l'électronique, évidemment.
Classique.
Ensuite, il faut qu'il soit près d'une prise de courant 220 volts. Et attention, point crucial, cette prise doit avoir une terre. Une vraie terre fonctionnelle, c'est pas une option.
D'accord, la terre de la prise secteur est déjà importante.
Essentiel. Et puis, pour les fils qui sortent de l'appareil et vont vers l'extérieur, le fil pour la clôture et celui pour la prise de terre de la clôture, il faut les faire passer dans des tubes isolants, séparés.
Ok.
Et pour le fil de sortie clôture, celui qui porte la haute tension, là, la notice insiste, il faut du câble très très bien isolé, type câble de bougie de voiture ou pour les néons haute tension. C'est pour éviter les pertes et pour la sécurité.
Très clair. Alors, on a installé tout ça, la mise en marche. Comment on sait que ça fonctionne une fois branché?
C'est simple. On branche sur la prise 220 avec terre et on doit entendre un petit bruit régulier, un clac, 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 environ une fois par seconde. C'est le bruit des impulsions électriques qui sont générées.
D'accord, le petit tic-tac de la clôture. Et est-ce qu'on peut vérifier l'appareil avant même de connecter le long fil de clôture?
Oui, il y a un test à vide, comme ils disent. Sans brancher le fil de clôture, le voyant rouge sur l'appareil, il doit clignoter à chaque claque. Si c'est le cas, l'appareil lui-même, en principe, fonctionne.
Et il y a aussi ce test de puissance un peu spectaculaire dont parle la notice.
Ah oui, pour voir si l'appareil a vraiment la pêche. On prend un petit bout de fil bien isolé et on fait un contact rapide entre la borne terre et la borne clôture de l'appareil. Isolant. Et là, si tout va bien, on doit voir une belle étincelle, violente et lumineuse, elle dit la notice. De 5 à 8 mm. Ça montre bien qu'il y a de la haute tension. Plusieurs milliers de volts.
5 à 8 mm, oui, ça donne une idée. Et cette haute tension, c'est ça qui fait l'avantage de ce type d'appareil, non? Pour compenser les pertes.
Exactement. C'est un des points forts mis en avant. Grâce à cette tension élevée, l'appareil arrive à maintenir un courant efficace sur la ligne, même s'il y a des imperfections. Des isolateurs un peu vieux, de l'herbe qui touche le film, une branche. L'appareil arrive à pousser le courant malgré ça.
Et c'est là qu'on arrive à un truc assez étonnant dans la notice. On pourrait même, dans certains cas, se passer d'isolateur.
Oui, c'est ça qui est assez remarquable. La notice suggère qu'avec des piquets en bois, mais attention du bois dur et bien sec, hein, pas du bois pourri, on pourrait fixer le fil galvanisé directement dessus.
Directement sur le piquet en bois, ok.
Oui. Bon, par temps humide ou en hiver, ça sera moins efficace, c'est sûr. Mais par temps sec, la puissance de l'appareil permettrait de surmonter les petites pertes à travers le bois sec.
Incroyable. Et même sur du fil barbelé existant? Ça me paraît fou, ça. Ça fait pas court-circuit partout?
C'est ce que la notice laisse entendre pour de très longues lignes. Connecter l'appareil directement à un fil barbelé en utilisant les piquets en bois sec comme support. L'idée, encore une fois, c'est que la puissance est telle qu'elle surmonte ces petites fuites inévitables. Ça pourrait même, selon eux, éviter d'avoir à vérifier constamment les isolateurs sur des lignes jusqu'à 15 km si on utilise du fil galva et des piquets bois. C'est une sacrée flexibilité, mais ça repose entièrement sur la réserve de puissance de l'appareil.
Fascinant. Donc on a cette puissance qui sort. Mais pour que l'animal sente quelque chose, il faut que le courant revienne à l'appareil. Et là, on arrive au point critique, je crois, hein, la prise de terre. Pourquoi c'est si fondamental?
Pour que ça marche, il faut boucler la boucle, si on veut. Le courant part de la borne, clôture, il suit le fil, quand l'animal touche le fil et en même temps le sol.
Il fait le lien entre les deux.
Voilà. Le courant passe à travers lui pour aller dans la terre. Et la prise de terre, qui est reliée à la borne terre de l'appareil, elle est là pour récupérer ce courant dans le sol et le ramener à l'appareil. Si cette récupération est mauvaise, le circuit se ferme mal.
Et l'animal ne sent presque rien.
Exactement. Ou pas assez pour être dissuadé. La prise de terre, c'est vraiment pas un accessoire. C'est la moitié du boulot. Le retour du courant.
Donc, même avec l'appareil le plus puissant du monde et un fil parfait, si la prise de terre est mauvaise...
C'est quasi inutile. La notice est très très claire là-dessus. Le courant doit traverser l'animal. Faut que le fil amène bien le jus et que le sol et la prise de terre le ramènent bien. C'est un couple indissociable.
Et apparemment, pour cette énergie pic, les exigences sur la qualité de cette prise de terre sont bien plus élevées qu'avant.
Oui, beaucoup plus. La notice dit que c'est lié à la puissance de l'appareil. Comme il envoie des impulsions plus fortes, il faut une voie de retour bien meilleure. Il parle d'une qualité de terre environ 100 fois meilleure que pour les anciens systèmes.
100 fois ? C'est énorme! Ça correspond à quoi en termes techniques?
L'objectif, c'est d'avoir une résistance très faible entre la prise de terre et le sol environnant, autour de 10 ohms. Les ohms, ça mesure la difficulté que rencontre le courant à passer. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Et 10 ohms, c'est souvent mieux que la prise de terre d'une maison, pour te donner une idée.
D'accord, objectif, très faible résistance. Comment on fait ça, concrètement? C'est quoi les règles?
La notice donne des conseils clairs. D'abord, il faut au moins deux piquets de terre, des vrais piquets de terre, hein, genre tube galva d'au moins 25 mm ou profilé en T long d'au moins 1 mètre.
Deux minimum.
Oui. Ensuite, l'endroit où on les plante est crucial. Il faut un sol bon conducteur. Idéalement, une bonne terre de jardin, de l'argile, un endroit qui reste humide. Faut éviter les sols caillouteux, sableux, trop secs.
Logique.
Les piquets doivent être enfoncés complètement et... très important, il faut les espacer d'au moins 2 mètres l'un de l'autre. Si le sol est vraiment mauvais, il faudra peut-être en mettre 3, 4 ou plus, toujours bien espacés.
Et comment on les relie à l'appareil?
Il faut les connecter tous ensemble et ensuite relier cet ensemble à la borne terre de l'appareil, avec du fil électrique standard, section 1,5 ou 2,5 mm². Et il faut soigner les connexions, s'assurer qu'elles sont bien serrées, protégées contre la rouille, un bon contact durable. La notice termine avec une sorte de mantra. Une prise de terre n'est jamais trop bonne.
J'aime bien cette phrase. Mais comment on sait si on a atteint ce niveau jamais trop bon? Il y a un moyen de tester?
Oui, il y a un test pratique un peu rustique, mais parlant. Attention, il faut être prudent. Quand l'appareil fonctionne sur une ligne, surtout une longue ligne ou une qui a des défauts connus,
oui.
Tu touches d'une main un des piquets de terre.
Oui.
Et avec l'autre main, tu touches le sol humide, mais à plus d'un mètre du piquet. Si tu sens une petite châtaigne, un coup de jus désagréable, voire douloureux,
aïe.
Ça veut dire que le courant a plus de facilité à passer par toi pour retourner à l'appareil qu'à passer par la prise de terre. Donc, ta prise de terre n'est pas assez bonne. Il faut l'améliorer.
C'est direct comme test. Il y a aussi des endroits où il ne faut surtout pas installer ses piquets.
Oui. Deux interdictions formelles. 1. Jamais utiliser une prise de terre qui existe déjà pour autre chose. La terre du bâtiment, d'une autre installation électrique, non. La clôture doit avoir sa propre terre, indépendante.
D'accord.
Et 2. Il faut une distance de sécurité. Les piquets de terre de la clôture doivent être à au moins 5 mètres de toute autre prise de terre, et aussi de toute canalisation métallique enterrée, genre conduit d'eau de gaz, pour éviter les problèmes d'interférence et de sécurité.
Bien noté. La terre, c'est vraiment le point clé, on dirait. Bon, passons aux pannes. Comment on diagnostique ? Le voyant rouge, c'est l'indicateur principal ?
Oui, ce voyant, c'est le premier indice. Il s'allume si la tension entre la sortie clôture et la terre dépasse environ 1000 volts. C'est considéré comme le seuil où ça commence à être efficace. Donc, s'il est allumé, en théorie, il y a assez de tension.
Ok, premier cas, on entend bien le clac-clac, mais le voyant reste éteint. Et ça, même sans clôture branchée.
Alors là, si ça fait ça à vide, sans rien de branché, c'est pas bon signe pour l'appareil lui-même. Probablement un défaut interne. Il faut le faire vérifier.
D'accord. Deuxième cas, le bruit est là, le voyant est éteint, mais cette fois, la clôture est branchée. Ça signifie quoi ?
Là, le problème est sur la ligne. Ça veut dire qu'il y a une énorme fuite de courant vers la terre quelque part. Un défaut d'isolement majeur.
Genre quoi ?
Ça peut être un fil cassé qui touche le sol, ou un fil qui touche directement un piquet métallique. Ça peut être des isolateurs abîmés sur des piquets en bois qui sont trempés. Ou parfois, sur les isolateurs en plastique noir type queue de cochon, on peut voir des traces noires comme brûlées près du piquet métallique. C'est le signe d'arc électrique qui se forme. Souvent, avec la puissance de cet appareil, le défaut est très franc, comme dit la notice. La fuite est massive.
Ok, autre scénario, le voyant rouge est allumé, donc on a plus de 1000 volts sur le fil. Mais les animaux s'en fichent et passent à travers. Qu'est-ce qui cloche ?
Ah, si le voyant est allumé, ça veut dire que la tension est là, au départ de la ligne au moins. Mais si ça ne pique pas assez les animaux, le suspect numéro 1, c'est encore et toujours...
La prise de terre.
Exactement. Il faut refaire ce test un peu désagréable dont on parlait. Si le retour du courant par la terre est mauvais, le choc ressenti par l'animal sera faible, même si la tension sur le fil est élevée. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas une coupure du fil quelque part sur la ligne, avec un testeur de clôture. Le courant arrive peut-être au début, mais pas au bout.
Compris. Et le dernier cas, le plus simple, plus rien. Pas de bruit, pas de voyant.
Bon, là, deux options. Soit c'est l'appareil qui est en panne totale, soit... plus probable au début, il n'y a plus de courant 220 volts qui arrive à la prise. Faut vérifier le disjoncteur, la prise elle-même.
D'accord. Et il y a une petite astuce à connaître pour ce voyant rouge, surtout la nuit ?
Oui, c'est un détail bête mais utile. Ce voyant, pour qu'on le voit clignoter, il a besoin d'un peu de lumière ambiante. Dans le noir complet, même s'il fonctionne, on ne le verra pas forcément. Donc, si on fait une inspection de nuit, il faut penser à éclairer l'appareil avec une lampe torche pour vérifier si le voyant clignote bien.
Bon, à savoir. Dernière ligne droite, l'entretien et les précautions. Même si l'appareil tolère certaines choses, faut quand même entretenir un minimum, non ?
Oui, disons que la haute tension pardonne un peu de végétation ou des isolateurs pas parfaits sur du bois sec. Mais les gros défauts, un fil par terre, un contact avec du métal, ça, il faut absolument les corriger. Garder une ligne globalement propre, ça assure la meilleure efficacité et ça évite de fatiguer l'appareil pour rien.
Et le gros point d'attention de la notice, les orages. L'appareil est protégé, mais...
Il y a des parafoudres dedans, oui. Des protections contre les surtensions. Mais la notice est honnête. Face à un orage violent, un coup de foudre direct ou indirect, ces protections peuvent ne pas suffire.
Donc, quelle est la recommandation ?
Elle est très claire et double. Pendant un orage, il faut absolument débrancher l'appareil. Pas juste l'éteindre. Débrancher la prise secteur. Et il faut aussi déconnecter le fil qui part vers la clôture.
Les deux ?
Oui, les deux. Parce que la foudre peut arriver soit par le réseau électrique, soit remonter le long de la ligne de clôture elle-même. C'est la seule vraie protection efficace pour l'appareil.
C'est une précaution essentielle, en effet. Bon, si on devait résumer les points clés de cette exploration de la notice énergie-pique.
Alors, je dirais 1. Le choix du fil, privilégier le gros fil galvanisé. 2. Adapter la hauteur des fils aux animaux. 3. L'importance capitale de la prise de terre. Plusieurs piquets, bien enfoncés, espacés, dans un sol humide, bien connecté et loin d'autres terres.
Oui, ça s'est vraiment ressorti. Ensuite ?
4. Utiliser le voyant rouge comme premier outil de diagnostic. Et 5. La précaution absolue en cas d'orage. Tout débrancher, prise et clôture.
C'est une bonne synthèse. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment comprendre un peu la physique derrière le circuit, La conductivité, la résistance aident vraiment à comprendre pourquoi ces recommandations sont là.
Tout à fait. Savoir le pourquoi du comment, ça change tout. Pourquoi ce fil-là? Pourquoi plusieurs piquets? Pourquoi cet emplacement? Ça donne les clés pour faire une installation qui marche et qui dure. C'est plus qu'une simple liste d'instructions.
Exactement. Et ça m'amène à une dernière réflexion. La notice insiste tellement sur la qualité de la prise de terre et donc sur l'humidité du sol. Mais cette humidité, elle varie énormément au fil de l'année, non?
Ah oui, complètement. Entre la sécheresse de l'été où le sol devient super résistant, le gel en hiver qui fait un peu pareil en surface, et puis les périodes de plus intenses.
Voilà. Alors, si l'efficacité dépend tant de cette résistance de terre qui fluctue, comment on peut assurer une performance, disons, constante ou au moins acceptable toute l'année? Ajouter plus de piquets, c'est une piste, mais est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies? Comment maintenir ce bon contact avec le sol quand il devient temporairement un mauvais conducteur? C'est une question intéressante pour aller plus loin, je trouve.